bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ok, on va continuer sur la vie d'Abraham, bien sûr. Et cet homme qui a reçu la plus grande des promesses qu'aucun homme n'a reçu dans l'histoire de l'humanité. Nous savons que son histoire commence vraiment dans Genèse chapitre 12. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de clés que Abraham a utilisées pour remplir sa destinée. Vous savez, Dieu appelle beaucoup de personnes. Dieu veut agir dans la vie des hommes. Mais tellement de gens restent et meurent sans accomplir ce que Dieu avait prévu pour eux. Tellement de personnes vont vous dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, j'ai rêvé de ça, ça a été confirmé, etc. etc. Et il y a de vrais appels de Dieu. Maintenant, je le dis et je le redis, ce n'est pas ce que Dieu te dit qui est le plus important, c'est ce que tu vas faire avec ce que Dieu te dit. Parce que vous savez, Dieu, quand il veut nous parler, il n'y a pas de problème, il est capable de nous parler. Et il sait très bien si on va comprendre ce qu'il nous a dit ou pas. Si
tu n'as
pas bien compris d'une certaine manière, le Seigneur va utiliser d'autres manières. Pour s'assurer que tu as bien compris. Et une fois que tu as bien compris, ça doit être clair. Mais nous avons vu que ce n'est pas parce que quelqu'un reçoit des promesses que ces choses-là vont s'accomplir.
Et
il y a tellement de gens qui restent avec des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que Dieu va tout faire et qu'ils n'ont rien à faire. Ou qu'ils peuvent prendre n'importe quelle décision, ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, et que tout ce qu'ils font, bah, finalement, comme Dieu le permet, bah, voilà quoi. Ah bah, Dieu a permis ça, ou alors il ne va pas permettre ça. Sous-entendu, il va m'empêcher de faire tout ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Nous avons une responsabilité pour que ça se produise. Et il va falloir vraiment travailler sur ça. Nous avons de merveilleuses destinées ici en Afrique de personnes qui sont appelées à faire des choses merveilleuses pour Dieu. On a plein de gens qui se donnent au Seigneur. On a besoin de visionnaires.
De
personnes qui sont à leur place, qui réalisent ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille pour que ça se réalise. Mais nous avons une telle responsabilité. Vous savez, en tant que pasteur, moi je sens une immense responsabilité de ce côté-là. De préparer le peuple de Dieu. Et de m'opposer à tout ce qui n'est pas divin. Et que les gens pourraient croire être divin. Et parfois, c'est pas simple, parfois. Parce que des fois, on enseigne des choses. Et puis les gens vont dire, oui, mais moi, en fait, moi, je pense que Dieu veut faire ça et ça. C'est comme ça qu'il fait. Et des fois, on dit aux gens, non, c'est tout un tas de choses qu'il va falloir mettre en place dans votre vie. Mais des fois, les gens sont tellement, je dirais, ils ont une mentalité tellement fixée sur des choses. Qui ne sont pas divines et qui paraissent divines, que c'est très difficile des fois de les défocaliser de sur ce qu'ils pensent et de les amener à avoir les façons de penser divines. Parce que si vous avez les mentalités divines, les façons de faire de Dieu, vous aurez les résultats divins. Si vous pensez à votre manière, que vous faites à votre manière, vous aurez des résultats humains. Et souvent les chrétiens ont des résultats humains alors qu'ils prient. Alors que bon, je dirais, on pourrait les cataloguer de bons chrétiens. Ils prient, ils vont à l'église. Ils essayent d'obéir à la parole de Dieu. Mais ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de chrétiens et de nouveaux qui sont comme ça.
Moi,
je veux que vous acquériez cette intelligence spirituelle. Je veux que vous acquériez de la sagesse. Je veux que vous puissiez voir loin. Changer quand il y a des choses à changer. Avoir des mentalités élevées selon Dieu. Et si c'est ça qu'il y a vraiment dans votre cœur, alors le voyage sera merveilleux sur cette terre. Sinon, il sera dur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir Dieu parler à des gens, de voir des personnes qui commencent très bien dans le Seigneur, et puis quelques années après, ils s'égarent complètement, ils font n'importe quoi, ils sont là en train d'être des soi-disant super spirituels, et ils n'accomplissent rien. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve très souvent. Donc il faut vraiment un peuple qui se lève et qui comprend comment ça marche. Et Abraham, c'est un homme qui va utiliser des clés, nous l'avons vu. Un homme qui avait la foi, même si sa foi a défailli plusieurs fois, il a avancé, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises, de plus en plus précisément, nous l'avons vu. Nous avons vu qu'il a fait ses erreurs aussi. Nous avons vu aussi l'histoire de Lot, qui avait le privilège d'être auprès de l'homme le plus loin de la planète de l'époque, et qui a terminé comme un lamentable naufragé avec une famille qui a été une catastrophe dont il en a perdu une bonne partie. Il a perdu tous ses biens, il a été traumatisé avec l'histoire de Sodome et Gomorre. Il s'est mis dans le piège de l'opportunisme, nous l'avons vu. Nous avons vu qu'Abraham était vraiment un homme de relation, un adorateur aussi, et puis c'était quelqu'un d'alliance avec Dieu. Nous avons découvert tout cela, nous avons vu que Dieu va lui donner un immense territoire pour sa descendance, mais nous avons vu que par ses erreurs, une partie de ses promesses ont été limités. Et ça, c'est des grandes leçons pour nous qui avons des promesses. Dieu peut tout accomplir dans nos vies ou accomplir partiellement ses promesses suivant les erreurs que nous allons faire. Et ça, il faut vraiment le savoir. C'est vraiment une loi divine. Dieu n'envoie pas la maladie, Dieu ne tue pas les gens, Dieu n'enlève pas les biens. Tout ça, vous le savez très bien. Mais par contre, quand Dieu fait des promesses, l'homme a un rôle. Et quand l'homme fait des erreurs, eh bien, des fois, il y a une partie de ses promesses que Dieu ne peut pas réaliser. Donc, nous savons qu'Abraham va écouter sa femme et il va aller vers sa servante. Pourtant, Dieu l'avait prévenu. Abraham avait prévu son plan de mettre Eliezer, le chef de son intendant en chef. Parce que Dieu avait appelé un homme à avoir une descendance avec sa femme Sarah. De lui sortiraient des rois, des nations, des peuples. Sauf que le problème, c'est que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfants. Et alors, ça, Abraham s'est retrouvé, je vous ai dit, c'est là où il y a souvent les grands défis par rapport à nos promesses. Quand Dieu te promet quelque chose, Il y a souvent un obstacle majeur, une montagne immense. C'est là où il montrera toute sa gloire. Comme je vous disais les dernières fois, pourquoi est-ce que Dieu va promettre une descendance et un territoire à un couple, donc à un homme qui va ne pas pouvoir avoir
d'enfants.
Qui avait toutes les richesses. Vous voyez, Abraham n'avait pas de problème d'argent. Il aurait pu acheter beaucoup de choses. Tout un territoire. Mais il y aurait eu personne après sa mort. Pour habiter dessus, en tout cas de ses descendants. Vous voyez, donc souvent Dieu va vous appeler dans un domaine où il va y avoir de grands défis pour vous. Et je vous rappelle qu'entre l'appel de Dieu et la réalisation de ses promesses, il y a un grand fossé. Et pour que ce fossé se remplisse, il va se remplir à la mesure de votre transformation. Ça, c'est vraiment des choses, ce sont des principes tellement puissants qui
ne
sont pas spectaculaires, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu as une promesse extraordinaire, c'est bien. Avant qu'elle se réalise, il
va falloir
que tu passes par une transformation totale. Et Abraham a vécu ça. Toutes les personnes qui ont vu Dieu agir dans leur vie, bien, ils ont vécu de grandes transformations. Ce n'étaient plus les mêmes après. Si tu restes le même depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne t'étonne pas que tes promesses ne se réalisent pas. Parce que le plus grand travail sera en toi d'abord. Si tu comprends ce principe, franchement, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Si tu refuses ce principe, tu vas blâmer les autres, tu vas blâmer les circonstances, tu vas dire à Dieu, tu vois ma montagne, la grande montagne qu'il y a ici.
Seigneur,
je ne sais pas comment tu vas faire, pour moi c'est impossible. Tu n'auras aucune foi, tu seras découragé, tu vas rester avec tous tes problèmes à l'intérieur et tu mourras avec tes promesses sans les voir réalisées. Qui veut mourir ici avec ses promesses sans les voir se réaliser? Personne. Sauf Steve, non. Steve, quand même.
Oh, yeah.
Bah, tu as levé la main, moi je l'ai baissé vite.
Je demandais aux gens.
Personne, franchement.
Ah, non.
Parce que si on a des promesses, on a envie de les voir se réaliser. Il y a des rêves en toi. Il y a des choses que tu vois quand tu es en train de louer et adorer Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit et te montre. Je
ne
te dis pas qu'il le fait tous les jours,
mais
il l'a déjà fait certainement pour beaucoup d'entre vous. Il est en train de le faire pour certains d'entre vous et il le fera encore, parce que Dieu aime inspirer l'homme. Dieu aime donner à l'homme de grandes visions. C'est pourquoi nous sommes nés sur cette terre. C'est pourquoi il nous a créés. Et maintenant, il faut rentrer dedans. La première étape, nous le savons, c'est d'abord de l'avoir rencontré. Et après, une fois qu'on est né dans son royaume, il va falloir découvrir comment le royaume fonctionne. Et comme le disait notre feu Miles Monroe, la plupart des gens ne comprennent pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Donc, vous devez comprendre les lois du royaume. Et dans la vie d'Abraham, il y en a des exemples. Il y en a des lois spirituelles. Donc, nous avons vu que Ismaël va naître. Et là, Dieu va être obligé de limiter ses promesses au fils de la promesse. Dieu avait donné un territoire au départ à la descendance d'Abraham entre l'Euphrate et l'Égypte. Du golfe persique,
vous
voyez, à droite, tout à fait à droite là. Vous avez après l'Irak, l'Iran, vous avez toute la péninsule arabique en dessous.
Arabe.
Et puis au Moyen-Orient, là, vous avez bien sûr le pays de Canaan, vous avez la Jordanie, etc., etc. Et jusqu'en Égypte. C'était immense le territoire. C'est ce que Dieu va lui donner au départ. Sauf que comme il va faire ses erreurs,
ariko kubera ko yakoze amakosa
nawe la vraie descendance
urubyaro gukuri yasezeraniwe
le fils qui va hériter de tout
uwasezeraniwe byose
sera limité à la Palestine.
Wari kuragwa byose yaciye aguma kuri Palestine gusa.
C'est-à-dire l'Israël actuel un peu plus large.
Ariyo Israël ya kino gihe tuzi uyu munsi.
Alors, nous avons vu que quand Abraham va faire son erreur, qui va faire son Ismaël, hein, quand on dit faire un Ismaël, c'est vraiment figuratif, hein, c'est vraiment une expression qu'on utilise nous les prédicateurs.
Kenshi ari jambo abavuga ubutumwa bakoresha ngo kuvyara Ishmaeli, no kuvuga ni ikintu ni gicapo.
Ça veut dire faire un Ismaël en général, ça veut dire que tu avais une promesse.
Tu
as bien réfléchi comment réaliser la promesse.
Tu y as
mis toute ton énergie. Et tu t'es retrouvé par terre. Parce que ce n'était pas comme ça que Dieu voulait le faire.
Tu n'étais
ni dans le temps de Dieu, ni avec les bonnes personnes, ni la façon de faire que Dieu voulait, ni l'endroit où Dieu voulait que tu fasses ça. Et on se retrouve, on a perdu beaucoup de choses. On est frustré. On se dit, mais on est dans la confusion. Et là, quand tu es complètement dans la confusion, alors que tu as essayé de réaliser les promesses de Dieu,
et ben,
tu pourras dire maintenant, je vais mettre un nom à ça, j'ai fait un Ismaël. Voilà, tout simplement. Parce que ce n'était pas la façon dont Dieu voulait que tu fasses les choses. Et là, il va falloir que tu repartes. Mais rappelez-vous d'une chose. Dieu n'est jamais le Dieu d'une seule chance. Tant que tu as un souffle, tant que tu respires encore sur cette terre, dans ton corps, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Ça ne l'oublie jamais. Ne te décourage jamais si tu t'es vraiment planté, que tu as fait un gros Ismaël, un grand Ismaël. Demande à Dieu une deuxième chance. Il te la donnera. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais il te la donnera. Tout le monde peut faire ses erreurs. Tout le monde peut tomber dans le péché. Tout le monde peut avoir un moment de faiblesse. Ne jugez jamais quelqu'un qui tombe. Parce que tu risques de tomber plus tard. Et ceux que tu as jugés, ils te jugeront. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Ne jugez point afin de ne pas être jugé. Faisons très attention à ça, frères et sœurs. Ok, mais Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu n'est jamais le Dieu d'une seule chance. Donc, il y a toujours de l'espoir. Rappelez-vous, Moïse, il s'est planté à 40 ans.
Et il a eu
son immense ministère à 80 ans. Joseph, vraiment, à 17 ans, a fait de graves erreurs. Et à 30 ans, il était transformé. Donc Dieu donnera toujours une deuxième chance. Maintenant, il faut faire attention. Samson a eu plusieurs chances. Sauf qu'il n'a pas su être transformé. Saül a eu plusieurs chances. Mais il a refusé d'être transformé. Et ce sont des gens qui ont terminé d'une façon terrible. Tout le monde peut tomber, mais il faut savoir se relever. Abraham a eu ses chutes. Il a même douté dans sa foi. Donc on sait que Dieu va le visiter. Dans le chapitre 18, nous l'avons vu. Puis, il va lui promettre, il va lui donner une date pour son enfant. Entre temps, nous avons la tragédie de Sodome et
Gomorrhe.
Et là, franchement, ça s'est très mal passé pour Lot, nous le savons. Et pourtant, ça avait juste commencé par une séparation. Mais Lot était un opportuniste. Et je vous ai montré que les opportunistes terminent toujours en naufragé. Donc il faut faire vraiment attention. Ne soyez jamais des opportunistes. Je
vous
rappelle que ce sont des gens qui prennent toujours, je dirais, ils regardent les différentes opportunités qu'ils ont. Et ils sondent. Au moment où ils doivent prendre une décision, ils hésitent. Ils vont voir les uns, ils vont voir les autres. Et l'opportuniste dit toujours, de quoi je peux profiter tout de suite. Sauf qu'il ne sait pas qu'un jour il va payer. Et c'est ça le danger des opportunistes.
Ils
courent vers la meilleure opportunité du moment sans savoir où ils mettent les pieds et les mains. Et souvent, c'est un petit compromis du départ qui se termine en tragédie. Les gens qui vraiment n'écoutent pas la voix de Dieu mais commencent à aller dans des choses qui paraissent pas trop graves au départ, qui paraissent, bon, ils diront ça va, je vais maîtriser ça. Et une fois qu'ils ont mis le doigt dans la machine, dans l'engrenage, ils se font avaler. Et des années plus tard, vous les retrouvez complètement par terre. Ils ne s'en sortent plus. Ils ont rétrogradé.
Et
Dieu a miséricorde, mais en général, ils perdent tout. Et c'est triste. Ne soyez pas les opportunistes. Les opportunistes rétrogradent. Les opportunistes se retrouvent avec tellement d'ennuis plus tard. Tôt ou tard, tu payes. Des fois, ça va demander 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais tu vas payer des décisions qui n'auront pas été divines. Et quand on les paye, on paye cher. Plus on attend longtemps pour payer, plus la facture est grande.
Mais
vous savez, nous avons tous la facture de nos décisions à payer. Toutes les décisions que nous prenons qui ne sont pas bonnes, nous payons la facture tôt ou tard.
Et
plus on attend, plus les intérêts sont élevés. C'est comme nos banquiers qui aiment à ce que nous empruntions de l'argent sur les longues périodes.
Parce qu'ils
ils aiment une chose. Les banquiers ont les yeux qui brillent avec un seul mot sur la terre. Ça s'appelle intérêt. Et c'est ça en fait. Et dans la vie, c'est la même chose. Les mauvaises décisions, quand nous les prenons et que nous ne corrigeons pas, nous paierons très cher. Plus nous attendons avant de nous corriger. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça fait partie des lois divine. Donc on a vu que Lot, hein, à la fin du chapitre 19, c'était là où on s'en était arrêté. Il se retrouve, il va vivre dans une grotte. Alors que le monsieur était un des grands sages de la ville de Sodome. Au milieu des abominations que ces gens-là faisaient. Même si la Bible nous dit que son âme était tourmentée, sa tête avait quand même accepté de rester dans un milieu qui était vraiment une abomination aux yeux de Dieu. Et ça lui a coûté très cher. Il était complètement traumatisé, déprimé. Quand il a fui, Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Nous savons que sa femme s'est retournée, elle a été détruite. Elle est morte. Ces deux gendres qui n'étaient donc les deux gendres qui étaient mariés avec ses deux filles sont restés et sont morts. Mais il y avait deux filles. Il a voulu d'ailleurs donner d'une façon abominable à ces gens qui allaient en abuser complètement. Ces deux filles ont pu s'échapper aussi. Mais nous savons qu'après, il y a eu de l'inceste. Elles ont voulu une postérité avec leur père. Ils l'ont enivré. Ça a été vraiment l'horreur totale, cette famille. Et là, nous allons voir, juste pour clôturer ce chapitre-là. Rappelez-vous, ces deux filles donc, vont donner des enfants. On va lire au verset 37 et 38. Et nous allons voir les deux peuples qui vont sortir de Lot. Au milieu du péché, de l'inceste, de tous les trucs bizarres. Et Lot, il y avait vraiment des, des esprits sataniques de perversité sexuelle qui tournaient autour de sa famille.
Et c'était
normal parce qu'il avait trempé au milieu de ces trucs-là. Tellement d'années.
Et c'est
ressorti avec ses filles qui avaient été élevées au milieu de d'abominations qu'elles pouvaient voir. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait du nom de Ben Amin, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour.
Ngo umukuru abyara umuhungu amwita Mowabu uwo niwe yandurutswe ko n'abanyamowabu na bugingo n'ubu umutoya nawe abyara umuhungu nyene amwita Benami uwo nawe yandurutswe ko abamoni na bugingo n'ubu.
Revenons à ce passage, je crois que nous l'avions lu la dernière fois, Deutéronome 23:3-6.
Reka dusome igitabo cyo gusubira mu byagezwe.
Si vous faites une étude sur les Moabites et les Ammonites, c'était des peuples qui vraiment faisaient des choses tellement mal aux yeux du Seigneur. Il y a eu plein de prophéties contre eux. C'est vrai que nous savons que Ruth, la Moabite, était de la deuxième génération avant David.
Et c'est une
exception. Parce que les Moabites et les Ammonites, c'était vraiment des peuples qui faisaient de la sorcellerie, certains faisaient passer leurs enfants par le feu, ils les sacrifiaient à des démons. Alors qu'au départ, on voit que Lot était quoi? Lot était finalement quoi? Le neveu d'Abraham.
Vous
voyez comment des générations peuvent être bousillées parce qu'il y a une personne qui fait n'importe quoi. Des générations peuvent être bénies parce qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu. Mais des générations peuvent être bousillées quand il y a des gens qui font des abominations aux yeux de Dieu, vous voyez. C'est pourquoi nous sommes la génération qui s'est donnée à Christ. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes cette génération. Pour que les générations suivantes, ce que nous engendrons, nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants,
puissent
servir le Seigneur. Amen.
Amen.
Et ça doit être quelque chose que vous devez comprendre aussi. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, dira Dieu. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, le fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Ici, Dieu va être clair dans sa loi. Il va être clair. Les Ammonites et les Moabites. Je vous ai briefé la dernière fois sur Balak et Balaam. Balaam, qui était prophète, et Balak, ce roi Moabite, lorsque Israël a quitté l'Égypte et commencé à aller vers le pays promis,
et bien
Balak a essayé de corrompre Balaam pour que Balaam prononce des malédictions sur
Israël.
Nous avions lu ce passage la dernière fois que vous trouverez dans le Nombre chapitre 22.
Et
Dieu a dû arrêter ce prophète parce que la Bible nous dit qu'il avait commencé à perdre la tête, entre guillemets. Balak lui avait promis beaucoup d'argent et il commençait à corrompre l'onction.
Vous allez
me dire comment est-ce que quelqu'un pouvait maudire Israël.
Vous savez,
quand Dieu donne des onctions à des gens,
il nous
donne une délégation de sa gloire.
Et à
maintes reprises, on voit que certains prophètes ont commencé à faire n'importe quoi avec l'onction.
Et
certains sont morts prématurément. Dieu était très clair dans sa parole. Particulièrement dans l'Ancien Testament. Je dois dire qu'aujourd'hui, avec les prophètes Pili-Pili et les aventuriers que nous avons, si nous étions dans l'Ancien Testament, nous en aurions enterré beaucoup.
Et
dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu comme nous l'avons.
Et
nous sommes capables, normalement, un chrétien digne de ce nom qui a un tant soit peu de discernement,
est
capable de discerner s'il y a une vraie prophétie d'une fausse prophétie. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Donc le prophète, sa parole était une parole divine, c'est-à-dire tout ce qu'il prononçait, ça devait être cru et pratiqué par le peuple. Donc ils avaient une grande responsabilité. Et quand ils s'écartaient de cette responsabilité, qu'ils faisaient n'importe quoi, ils pouvaient mourir sur le champ.
Si vous
n'en êtes pas convaincu, vous pourrez lire cette histoire dans 1 Roi chapitre 13,
où il
y a un jeune prophète qui vient voir un roi
qui
lui donne une prophétie, et il devait repartir par un certain endroit. Il
ne
devait rien prendre, il devait jeûner. C'est ce que Dieu lui avait dit. Et il y a un vieux prophète jaloux qui est venu pervertir cela. Et ce jeune prophète a désobéi parce qu'il a cru ce que le vieux prophète lui avait dit.
Et
il est sorti de la protection divine et il est mort. Donc ça, c'était une parenthèse. Revenons à notre texte donc de Genèse. Alors là, on va voir au chapitre 20 qu'on va relativement parcourir. On va voir un passage. Et c'est un peu étonnant parce qu'en fait, ce passage-là, il y a certains érudits qui pensent que ce chapitre est mal placé. Vous allez comprendre pourquoi. On va le lire donc du verset 1 au verset 18. On va le lire assez rapidement. Je vais vous montrer pourquoi. On va juste le lire en français. Et on va voir que c'est étonnant. Rappelez-vous, Abraham avait 99 ans. Et sa femme, elle devait avoir 80, je crois. Donc, ils étaient vieux. Sarah, quand elle a reçu la promesse, à peine une année plus tôt que ce passage, elle a rigolé, elle a eu du mal à croire. Parce qu'elle s'est dit, finalement, on va se moquer de moi, je suis une vieille femme. Je pourrais être grand-mère ou même arrière-grand-mère. Et je m'imagine mal avoir un petit bébé. Et elle disait, tout le monde va se moquer de moi. Et d'ailleurs, ça va se passer, nous allons le voir. Les gens vont se moquer d'elle. Parce qu'elle l'avait dit. Et il a été fait selon sa foi. Et en fait, on va découvrir ça. Voilà, verset 1, chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, donc dans le sud. Hein. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ?» En fait, c'était sa demi-sœur, comme nous allons le voir, Sarah. « Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Vous voyez, il était bien prophète, Abraham. La Bible nous le dit clairement. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » C'était quelque chose qui était assez commun. Je vous le rappelle, on avait étudié ça un peu plus tôt. « De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. » Verset 13, « Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis-le-moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah sa femme. Abimélec dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. On va en parler de ça d'ailleurs. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela sera un voile sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Abraham prit à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes et elles purent enfanter. Et car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alors quand on regarde ici ce passage, on a l'impression un peu que c'est une parenthèse quelque part.
On
sait que la Genèse normalement est dans un ordre chronologique. Mais là, on sait que c'est pas après l'événement où Dieu va lui dire, eh bien, tu sais, dans un an, Sarah, ta femme, va avoir un fils.
Ariko turazi yuko ahatari cyo gihe bitari muri bya bindi aho Imana yamubwira ngo mu mwaka umwe Sarah azafise umwana.
On voit d'abord que ce passage va concerner une certaine, je dirais, un certain laps de temps.
Aha turabona yuko iki gice kivugwa mu gihe gito kanaka.
Parce que quand on lit le début, on a l'impression que bon, Abraham va à Gérard, d'un seul coup Abimélec enlève sa femme.
Turabona bavuga ngo yikubita Gérard, hama Abimélec amutwara umugore.
Dieu lui parle.
Imana ivugana nawe.
Il ramène sa femme. Et après, ils vivent tranquillement. Et tout ça, ça a duré 3 jours. Pas tout à fait. On sent qu'il y a une période de temps ici. Pourquoi ? Parce que d'abord, Dieu a frappé ces gens-là. Et il y a eu une stérilité, donc ça s'est constaté. On constate pas qu'il y a une stérilité en 3 jours. C'est sur une période de temps. Donc on sait que ça a duré une période de temps ce chapitre. Maintenant l'autre chose qui paraît évidente, c'est que c'est sûr qu'Abimélec ne s'est pas intéressé à une femme de 80
ans.
J'espère que vous êtes d'accord. Ok, surtout que Sarah disait je suis vieille maintenant. La Bible clairement nous dit que quand ils ont eu Isaac, ils étaient vieux. Et Sarah, d'ailleurs, quand Isaac va naître, elle va clairement dire que finalement tout le monde va se moquer de moi et ça va se passer.
Sarah, elle va dire que
donc on voit clairement que le chapitre 20, c'est une période de temps. Et il semblerait que ce chapitre concerne des années antérieures, clairement. Je vous rappelle que ça nous fait penser au chapitre 12 tout au début que nous avions étudié, ou la deuxième partie où Abraham va descendre en Égypte et le pharaon va capturer sa femme. Donc on a l'impression que c'est une sorte de rétrospective, un retour en arrière, et ça dure un certain temps. Alors ça nous permet d'apprendre certaines choses sur la vie d'Abraham et sur sa famille aussi. On s'aperçoit que c'est vraiment sa demi-sœur.
On sait que
ils étaient tous les deux du même père,
mais
pas de la même mère. Alors, on sait aussi que Abimélec, regardez bien le verset 15, parce que ça c'est quelque chose dont on va parler juste au chapitre suivant. Il est dit à Abimélec, dit, voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. Et Abraham va habiter du côté de Guérar un certain nombre d'années. Et on va voir ce qui va se passer après. Alors on va sauter ce chapitre qui n'a pas, je dirais, d'intérêt particulier pour les grandes leçons. Et on va aller au chapitre 21. Et on va lire du verset 1 au verset 7. Et là, la promesse finalement va s'accomplir. Vous savez, c'est ça qui est un peu étonnant avec Dieu parfois. Dieu vous promet. Vous avez tous les obstacles du monde.
Il
vous laisse faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Vous êtes là, vous vous débattez avec vos circonstances. Il
n'y
a rien des fois qui se passe dans vos promesses pour l'accomplissement pendant des années. Vous passez par des moments de doute. Dieu vous fortifie. Vous cherchez la face de Dieu. Il y a des moments difficiles par lesquels vous passez. Et puis, il y a un déclenchement de la foi. Parce que Dieu est fidèle. Et quand il promet quelque chose, comme je vous disais, il vous donnera plusieurs chances. Et quand vous savez saisir ces chances,
eh
bien, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que la foi finalement va être générée en vous. Et à ce moment-là, vous êtes dans le repos de la foi. Et il y a un moment où, paf, Dieu va réaliser la chose. D'un seul coup, tout va se mettre en place. Les rendez-vous divins se créent. La provision arrive. Les miracles, Dieu commence à les faire. Et il vous propulse dans votre destinée. Là, ça faisait 25 ans que Abraham attendait sa promesse. Entre temps, nous avons vu tous les obstacles, toutes les erreurs aussi qu'il a faites. Nous avons vu tous les moments difficiles par lesquels il est passé. Et puis, là, on arrive à la promesse. Et c'est ça qui est intéressant dans la foi. Vous êtes là, vous avez cru. Rien n'a bougé pendant des années. Et d'un seul coup, tout se met en place surnaturellement. Ça, c'est les périodes les plus géniales que vous pourrez vivre dans votre vie. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien voir quand Dieu m'a parlé il y a des années. D'un seul coup, les choses font. Et Dieu les réalise. Et vous êtes là. Vous savez que c'est fait. Vous êtes juste spectateur. Là, vous vous asseyez et vous voyez Dieu agir. Et Dieu amène tout ce qu'il faut. Toutes les bonnes personnes. Toute la provision. Tous les miracles qu'il doit faire. Et vous n'avez qu'une chose à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Il
n'y
a rien d'autre à dire. Rien d'autre à faire. À ce moment-là. Tu marches, tu continues à marcher tranquillement, comme tu faisais pendant toutes ces années. Mais là, d'un seul coup, il y a une accélération extraordinaire. Comme s'il y a une superpuissance qui te pousse, comme ça. Et en quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, tout se met en place pour ce pourquoi tu as cru pendant des années et où tout semblait dire ça ne se réalisera jamais. Et c'est ce qui se passe pour Abraham.
Pendant
des années, il a marché avec Dieu. Il fait ce qu'il devait faire. Il fait ses erreurs. Dieu lui apparaît. Dieu lui parle. Il fait ses histoires d'Ismaël. Il
ne
comprend pas comment ça marche, comment Dieu fonctionne exactement. Il se retrouve avec un grand silence de Dieu pendant
13
ans. Et après, d'un seul coup, sa foi est réactivée. Il croit. Dieu lui parle complètement à nouveau, lui donne un délai. Et là, on voit qu'Abraham, il est tranquille. il attend que Dieu vienne et fasse tout.
Arindira kw'Imana iza kubikora.
Oui, il y a un moment où on doit agir. Il y a un moment où on doit être transformé.
Il
y a un moment où on doit se corriger.
Et
il y a un moment où on va s'asseoir. Et Dieu vient. Et paf. Et c'est là où tout se fait. Et c'est souvent sur des petites périodes. C'est ça qui est un peu étonnant dans les promesses de Dieu.
Je me
dis, ça peut être statique, ça peut ne pas bouger pendant des années. Et en quelques jours, quelques mois, des fois quelques heures, tout va changer pour toi. Et tu vas te retrouver là où tu dois te retrouver. Et là, tu es vraiment admiratif devant Dieu. Parce que là, il a montré sa gloire. Vous savez, quand les gens veulent aider Dieu, Dieu ne peut rien faire parce qu'il n'aura pas la gloire. Tu vas récupérer la gloire à ce moment-là. Et il y a des fois, c'est très dangereux. Là, il est dit, verset 21, chapitre 21, verset 1, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Ça veut dire que là, Dieu voit qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse agir souverainement. Il y avait la transformation, il y avait la foi. Et il y avait quelque chose qui intéresse beaucoup Dieu. Les circonstances les plus impossibles pour l'homme. Ça, Dieu aime ça. Quand les circonstances sont les plus impossibles pour l'homme. Qu'on arrive là où vraiment c'est le foutu du foutu du foutu. Là, il est dit, nous l'avions vu dans Romains chapitre 4, que Abraham espérant contre toute espérance, sachant qu'il était usé. Donc c'était fini. Humainement parlant, l'espoir d'avoir une descendance était 0,0010000. Et je vous assure, Dieu aime bien venir quand l'homme croit et pourtant tout semble complètement impossible. On va revenir, merci, au chapitre 21, verset 1 de la Genèse. Et là, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, nous dit la parole de Dieu. Et l'Éternel accomplit, voilà, tout simplement, pour Sarah ce qu'il avait promis.
Vous
voyez, là, on voit vraiment Dieu, il vient, paf! L'homme n'a plus rien à dire.
Tu
as une promesse? Tu as cru? Entre-temps, tu as été changé? Maintenant, laisse Dieu être Dieu. Verset 2. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils. Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Rappelez-vous les délais, attention dans le prophétique. Si Dieu ne t'a pas vraiment parlé sur un délai précis, tu ferais mieux de te taire sur le délai. Sinon, il va y avoir une bande de moqueurs qui vont se mettre autour de toi. Et qui vont attendre le jour J dont tu as parlé. Verset
3,
Abraham donna le nom d'Isaac. Rappelez-vous, Isaac, ça veut dire rire. C'est Dieu qui lui avait donné le nom. Au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Tu l'appelleras Utwengo, ton fils aussi. Utwengo. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance. Vous voyez, c'est marrant parce que la Bible nous fait les fêtes là.
L'Éternel se souvint. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils. Et Abraham le circoncit. Et Abraham avait 100 ans. Vous voyez, on a l'impression de lire un fait divers de l'actualité.
Il avait 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 6. Et Sarah dit, regarde, vraiment Sarah, vous avez vu le caractère de Sarah? Ça fait plusieurs fois. Hein? C'est pas la première fois qu'elle fait des histoires. Et vous savez, pourtant, la Bible donne un beau témoignage de Sarah. Si vous lisez les épîtres de, Pierre, vous verrez ça. Mais honnêtement, quand on voit l'attitude qu'elle avait, ce n'était pas une attitude tellement de foi. Elle était plutôt, on dirait, du côté très charnel, n'est-ce pas? Alors avant, elle accusait Dieu de l'avoir empêché d'avoir des enfants. C'était Dieu qui était la cause de sa stérilité. Ensuite, c'était une espionne. Rappelez-vous, elle était là en train d'écouter ce que Dieu disait à Abraham.
Vous vous rappelez de ça?
Là, au lieu de dire, « Oh, Seigneur, tu es extraordinaire. » On est marié avec Abraham depuis 97 ans, non, j'exagère, mais pas. Et on n'avait pas d'enfant, et là, waouh! Elle aurait dû être heureuse, non? Non? Franchement. C'est vrai que, bon, peut-être qu'elle aurait été un sujet un peu de rire, mais quelque part, ça relevait sa tête, non? Elle
n'allait
pas mourir sans postérité. Elle savait qu'il y avait une promesse extraordinaire. Et en plus, elle fait des histoires quand ça se réalise. Alors ça, franchement, je n'ai pas compris. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi.
Sara ravuga ati mana irantwengeje kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje.
Ah, ça va se passer et pas avec n'importe qui d'ailleurs.
Byarabaye kandi apano wari wese.
Verset 7. Elle ajouta. Qui aurait dit? Elle ajouta. Vous savez, il y a des gens qui ajoutent. Non seulement ils font des histoires, mais ils aiment faire des sur-histoires.
Goyongerako.
Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse.
Ah,
Dieu a dû faire un sérieux miracle, hein, parce qu'elle a pu même allaiter la dame. Il y a un sacré miracle, hein.
À
tous les points de vue. Et apparemment, elle n'était pas contente. L'enfant grandit et fut sevré. On ne voit même pas Sarah se repentir. Je crois qu'elle aimait bien les histoires. D'ailleurs, il va y en avoir encore une plus loin. Il y en a comme ça qui aiment bien les histoires. Je ne sais pas pourquoi. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin. Ah, quand même! Le jour où Isaac fut sevré. C'était leur promesse de 25 ans qui se réalisait. Bon, on sentait qu'Abraham, il avait quand même de la reconnaissance. Sarah n'en avait pas du tout. Mais franchement, je trouve que, je ne sais pas moi... Dans d'autres passages, avec d'autres personnes qui ont été bénies, on voit par exemple David, quand il se passait des trucs comme ça dans sa vie, pas spécialement de la fécondité, mais d'autres choses, il louait le Seigneur et il écrivait 54 psaumes.
Et
là, ils sont là.
Oui, mais vas-y, Sarah, occupe-toi-en. Oh, tu sais, je suis vieille, Abraham. Apparemment, ils ne sont pas super heureux. Pourtant, il y avait toutes les promesses. Mais quand même, Abraham, on sent qu'après, il y a quelque chose de spécial. Mais bon, j'avoue que ce passage de chapitre 21, hein, c'est pas, on n'a pas l'impression qu'ils sont très euphoriques, qu'ils ne font pas une grande louange au Seigneur. Je trouve que c'est un peu étonnant. Je ne sais pas, vous ne trouvez pas, non? C'est un peu contrastant, quelque part. On a l'impression que, bah, tu sais, je ne me suis jamais occupé d'un bébé. Bah, moi non plus, je n'ai jamais eu de bébé. Hein. Comme si quelque part c'était un peu, ils étaient embarrassés en quelque sorte. En tout cas, Sarah était très embarrassée. Alors qu'elle aurait dû être heureuse. Sarah, vraiment, elle a vraiment un mauvais caractère. Pas reconnaissante au Seigneur. Devant une telle réalisation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? L'important, c'est quoi? C'est que Dieu agisse en ta faveur? Ou c'est le qu'en dira-t-on? Vous savez, il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils veulent savoir ce que les autres vont dire. Et vous savez qu'il y a des gens, le diable des fois utilise même ça, pour empêcher des gens de se convertir, qui vont avoir des pressions familiales, religieuses. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et le diable souffle dans leurs oreilles. Tu sais, si tu acceptes ce Jésus-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Plutôt que de prendre la bénédiction de Dieu et d'éclater en louange, et peu importe de ce qu'ils vont dire, l'important c'est ce qu'il dit lui, parce que les autres vont dire. Et même s'il y a des gens qui vont dire des choses négatives, tu en trouveras toujours sur le chemin qui te diront: c'est super, tu as été béni par Dieu, qu'est-ce que je me réjouis. Mais Sarah, ce qui l'intéressait, c'est qu'est-ce que les autres vont dire. L'enfant grandit, fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Verset 9. Sarah, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit: on va se moquer de moi. Qu'il soit fait selon sa foi. Sarah vit rire. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui va se moquer. Ça va vous donner. Il y a des gens, quand ils rigolent, on s'en fout. Mais il y en a d'autres, s'ils rient, c'est comme un gros poignard qu'on vous enfonce dans le cœur. Vous avez remarqué ça? Vous savez, il y a des gens parfois, il y a des gens qui peuvent vous dire n'importe quoi, vous vous en fichez complètement. Mais celui-ci, c'était celui qui ne devait pas dire ça. Sarah était dans une position où elle risquait de se faire ce qu'on appelle offenser. L'offense, c'est quelque chose dont on doit vraiment guérir. Quelqu'un qui va te dire quelque chose, et d'un seul coup ça va être comme le poignard qui rentre dans ton cœur. C'était au mauvais moment, au mauvais endroit, quand tu n'étais pas du tout disposé à entendre ce genre de choses. Et d'un seul coup ça crée comme un poignard qui te rentre dans le cœur. Et les gens disent: mais il t'a dit ça? Et tu te mets dans tous tes états juste pour ce petit truc-là. Et il commence à te dire: mais tu sais, moi, on m'a dit 10 fois pire.
ati je bambwiye ibisumba nibyo bakubwiye wewe
mais toi ça t'a atteint
ariko uraba imishatsi
alors que c'était pas forcément quelque chose de terrible
kandi kitari kintu gisa n'ikibi cyane
mais tu t'es mis dans une position
ariko kubera ikibanza wishizemo
ce qu'on appelle offensé
cyo gukomeretswa
les gens offensés réagissent très mal dans leurs relations.
Abantu bakomerekejwe mu mibano yabo n'abandi bifata
nabi. Ça c'est quelque chose dont tu dois guérir très rapidement dans ta vie chrétienne.
Nikintu vuba cyane mu buzima bw'ubukristo duhamagariwe gukira.
Ce que les gens disent de toi.
Icyo abantu bakuvuga ko
quel effet ça te fait?
Bigukira gute, bigutera kumera gute.
Si tu as mal fait, si tu même tu as péché que tu as demandé pardon.
Nimba hari kintu wakoze kibi ugasaba imbabazi.
Considère le pardon de Dieu.
Daba imbabazi Imana yakugiriye.
Si les gens parlent mal sur toi à propos de ce que tu as fait.
Nimba abantu babandanije kuvuga nabi kubijanye n'ibyo wakoze.
Je l'ai fait mais j'ai été pardonné.
Ubivuga uti narabikoze mbwa narababariwe.
Mais ne te laisse pas offenser.
Ariko ntureke ngo ukomeretswe.
Quand tu te laisses une parole quand elle te blesse et que ça crée de l'amertume en toi.
Iyo haje jambo rika gukomeretsa rikazana mururazi muri wewe.
C'est extrêmement mauvais.
Ni ibintu bishobora kuba bibi cyane.
Parce que tu vas réagir sur ces blessures.
Kubera ko usanga uri kuragira icyo ukoze kubera icyo gikomere
kiri muri wewe. Il y a des gens comme ça que les moindres paroles que les autres leur disent.
Hari abantu bameze gutyo akajambo kose yumvise abantu bavuze.
Ils prennent ça mal.
Agafata nabi.
Si c'est ton problème.
Nimba ari ngorane
yawe. Tu as intérêt à en guérir rapidement.
Birakwiye ko ukira.
Parce que ça va être une arme que l'ennemi va utiliser contre toi.
Kuko icyo ni kigwanishwa umwansi azokoresha
mu kugwanya. Vous savez, dans cette vie,
muri buno buzima,
il faut mettre une carapace comme les tortues.
Turakwiye kwambara inkinzo kujya kw'ibinyamasyo tukikingira.
Parce que tu rencontreras toujours des gens
uzokwamuhura n'abantu
qui te diront une parole mal à propos. Des fois, ce ne sera pas vraiment de la méchanceté, ce sera bon, quelque chose qu'ils vont te lancer comme ça. Mais si
tu
as un problème d'offense, l'ennemi va en profiter. Et comme par hasard, la mauvaise parole qui va commencer à te détruire va rentrer dans ton cœur. Et il faut savoir se protéger. Protéger frères et sœurs. Parce qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent au bout de quelques années remplis d'amertume. Alors que des fois, ça a commencé par une petite parole. Je ne parle pas des gens qu'on a essayé de détruire ou à qui on a fait des trucs vraiment graves. Mais il y a des personnes, parfois, ça a commencé par des petites choses. Et ça a créé en elles tout un monde bizarre. Des blessures gigantesques. Et puis un jour, il y a l'autre personne qui vient la voir.
En
disant, mais qu'est-ce qui se passe? La relation entre nous n'est pas bonne, pourquoi? Et d'un seul coup, la personne offensée commence à raconter tout un tas de trucs. Et l'autre, elle ouvre des gros yeux et lui dit, mais ce jour où je t'ai dit ça, mais c'était pas du tout pour te faire du mal.
Vous
voyez, ça avait commencé par un petit truc. Mais la personne s'est mise dans une position où elle était offensable. Ça veut dire qu'elle a mal pris les choses. Comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Méfie-toi de ça. Ça prouve que tu es offensable. Vaut mieux que tu considères que même si la personne t'a dit quelque chose, même si elle a voulu t'envoyer un couteau, tu te dis, bon, elle a peut-être dit ça comme ça. Même si elle a dit ça avec vraiment des mauvaises intentions, mets ton blindage. Comme ça, boum, ça va te cogner sur ton métal. Et le couteau va se casser. Et tu diras, tu disais ça pour me faire du mal, mais ça m'a rien fait.
Hanyuma, wewe umubwire uti, muri wowe uvuga uti, washaka kungira nabi mugabo ntacho bingize.
Je vous assure, être offensable, c'est terrible. Sarah était offensable. Vous savez, dire qu'on ne doit jamais écouter les autres, ça, c'est pas vrai.
Vous
savez, il y a des gens qui sont là et disent moi, il n'y a que le Seigneur qui me juge. C'est d'ailleurs marqué dans l'écriture, Paul le dit. Oui, mais tes frères et sœurs aussi ont le Saint-Esprit. Oui, oui, mais le Seigneur ne m'a jamais rien dit là-dessus. Oui, parce que tu es devenu sourd. Ah, il y a des gens qui sont comme ça. C'est le Saint-Esprit, tant que le Seigneur ne m'a rien dit, je suis exonéré de l'OBR. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Non.
Ça, c'est des gens qui ne sont pas équilibrés. C'est vrai que c'est le Seigneur qui nous juge, mais aussi on a des frères et sœurs pour nous dire, hé, hey, mon frère, ma sœur, ça, c'est pas bien ce que tu fais. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut être capable d'écouter les autres et quand les autres te disent, tu sais, ça va pas là? Tu es capable de dire, oh, ça fait la troisième personne qui me dit la même chose. Vous savez, quand plusieurs personnes vous disent la même chose que vous avez, le même problème que vous avez, et que ce sont des frères et des sœurs, bon, il y en a un qui peut être mal intentionné, qui peut porter un jugement.
Ça,
oui, il y a des fois des gens qui peuvent nous juger
Seigneur,
et qui ne sont pas spécialement bien intentionnés
ou
qui veulent critiquer par exemple. Mais quand tu as une deuxième personne qui dit la même chose,
là,
essaye quand même d'écouter un peu. Quand on a 3, 4 ou 5 et que tu es encore en train de dire c'est le Seigneur qui me juge seulement, là,
tu as
un problème.
Tu as
un sérieux problème. En fait, tu es quelqu'un qui n'écoute rien. Et qui dit, finalement, j'ai besoin que du Seigneur et les autres, j'en ai pas besoin. Ce sont des gens qui ne réussissent jamais leur destinée. Nous avons besoin les uns des autres. Tu ne réussiras jamais ta destinée seul. Tu as besoin de bonnes relations dans ta destinée. Et tu as besoin de gens qui sont capables de parler dans ta vie dans différents moments. Et si tu fais quelque chose qui est mal, qui soit capable de te dire, ça, c'est pas bien. Tu peux pas faire ou continuer ou faire ça ou ça. Et tu dois savoir écouter ces personnes. Dieu a mis des frères et sœurs à côté de toi pour aussi veiller sur toi. Je n'ai pas dit te surveiller, je n'ai pas dit qu'il a mis la CIA et le KGB. J'ai dit veiller sur toi. La Bible dit de veiller les uns sur les autres, n'a pas dit de nous surveiller les uns les autres. Je peux bien traduire ça. C'est très différent. Je sais qu'ici, tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde fait comme Sarah. Et ça, c'est un grave défaut. Mais ce n'est pas bien, parce que la Bible nous dit de nous occuper de nos propres affaires. Mais d'un autre côté, tu as des frères et sœurs qui sont placés à côté de toi, qui ont l'Esprit de Dieu, qui marchent avec le Seigneur, et qui aussi sont capables de te dire certaines choses et doivent te dire certaines choses. Donc ça, c'est vraiment une extrême. Les gens qui n'écoutent personne, sauf, soi-disant, le Seigneur. Ça, c'est très mauvais. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu nous parle aussi au travers des frères et sœurs. Dire que Dieu te parle seulement à toi personnellement. Non, Dieu te parle personnellement, mais Dieu te parle aussi au travers de frères et sœurs. Amen.
Amen.
Parce qu'ils ont aussi l'Esprit de Dieu.
Et
toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, l'autre extrême, c'est des gens à qui on dit tout et n'importe quoi et qui reçoivent ça comme des poignards. Donc, qui sont offensés et offensables. Et Sarah était offensable. Elle avait bien préparé le terrain par sa bouche. Tout le monde se moquera de moi. Tout le monde dit les méchants.
ngo bazonchokora bazonwenga.
Non, tout le monde n'est pas méchant.
Abantu bose ntibazogutwenga, abantu bose si babi.
Il y a des méchants, oui.
Hariho babi, yego.
Mais sur les 7 milliards qu'il y a sur la Terre, il n'y a pas 6 999 000, j'essaie de me tromper, 999 999, c'est-à-dire 7 milliards moins 1. Évidemment, toi, si les autres sont méchants, toi tu es gentil. Tu es le seul gentil sur la Terre.
Non,
il y a des gens qui sont offensables. Parce qu'ils créent l'atmosphère où des gens vont leur dire des choses et il y a une ouverture dans leur caractère et au mauvais moment, au mauvais endroit. Pourquoi est-ce que c'est pas, je sais pas moi, la femme d'un des serviteurs d'Abraham qui s'est moqué de Sarah?
Kubereke atari umwe mu bagore b'inchoreke ya Abrahamu yoba yaramutwenze yoba yaramucokora.
Pourquoi comme par hasard Sarah virir le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, c'est-à-dire Ismaël?
Kubereke yagiye abona umuhungu wa Agari umunyagiputakazi ari we ariko aramutwenga.
Parce que c'est celui qui allait lui faire le plus de mal. Kuko niwe. En rigolant.
Niwe.
Mais elle avait bien préparé tout le terrain pour
ça.
Quand vous êtes quelqu'un d'offensable, vous êtes sûr que celui-là, là, c'est sûr qu'il va me reprocher quelque chose. Oh, il va me reprocher quelque chose quand je vais arriver à la maison.
Tu
arrives à la maison.
Au
fait, paf!
Parce
que tu as préparé ton environnement relationnel de la mauvaise façon et ça va être au mauvais endroit, au mauvais moment, la mauvaise parole. Sarah, on est un exemple typique. L'offense. Elle va être offensée. Et les gens offensés sont des gens qui réagissent toujours mal dans les situations. Verset 10. Et elle dit à Abraham, oh quelle chance Abraham il avait. Elle va voir Abraham, c'est elle qui a fait les histoires, c'est elle qui est dans les histoires, mais elle va voir qui? Abraham.
Ah,
il y a des spécialistes. Ils se mettent dans toutes les histoires du monde et il faut que ce soit les autres qui les tirent d'affaire, enfin qui règlent leurs problèmes conflictuels. Abraham, je t'avais dit qu'on se moquerait de moi. Et tu vois qui l'a fait. Maintenant, toi, règle le problème. Il était béni, Abraham. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Il avait déjà eu des histoires, Abraham, précédemment, pour le même sujet. Et là, la petite dame, elle revient à l'attaque. Abraham, débrouille-toi, vire-la. Ah, mesdames, j'espère que ça vous parle.
Hein.
Et c'est Abraham qui devait régler le problème. Et quand on étudie, rappelez-vous, c'est elle qui l'a poussé vers la servante. Quand Ismaël est né, Agar s'est moqué de Sarah. Elle est venue vers Abraham et lui a fait des histoires. Après, Abraham, il s'est dit, ça va, maintenant, c'est calme dans la famille. Et là, ça recommence. Bon courage,
Abraham.
Nous étudierons
que ce que cette parole du verset 10, la prochaine fois, parce que notre heure est terminée, mais ce que cette parole, comment cette parole a été reprise pour une image dans le Nouveau Testament.
Uyu murongo w'icumi reka tuzobandanya mwanya wacu urarangiye tuzovuga ingene bawugaruka ko mwisezerano rishasha bakavuga.
Donc vous voyez bien que Sarah avait un caractère très facile.
Urabona ko Sarah yarafise ingeso zoroshe.
Les gens offensables sont des gens terribles sur la terre.
Abantu bakomeretse n'abantu bameze nabi cyane ku isi.
Si t'es offensable, débarrasse-toi de ça.
Abantu bakomereka vuba.
Parce que tu vas être quelqu'un qui va ruiner tes relations. Les gens offensables rentrent dans des relations avec d'autres personnes, d'amitié ou autre,
et
ça se termine toujours très mal. Ce sont des gens à histoire. Sarah était vraiment une femme à histoire. Elle
n'a
jamais reconnu ses torts, alors qu'elle en avait dans toute l'histoire. Elle
ne
s'est jamais réjouie de la bénédiction de Dieu. Elle aurait dû éclater en louange. Et quand Ismaël se serait moqué d'elle, elle aurait dû lui dire, tu sais, il est ma gloire et il a relevé ma tête. Je lui donne toute la louange. Tu peux essayer de gâcher ma joie, mais tu n'y arriveras pas. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.